mercredi les 15 et 22 février de 13h30 à 15h30, le Café Le Cœur à lire vous invite à venir échanger en toute amitié sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Pas de gêne, pas de stress. Inscrivez-vous en tout temps à nos ateliers de français, c'est gratuit. Le Café Le Cœur à lire, organisme d'alphabétisation, 177 71e rue Est à Charlebourg, 418 841 1042.
Lecœuralire.com.
En partenariat avec la Caisse populaire des Jardins de Charlebourg.
Eh bien, bonjour, bonjour, chers auditeurs de CKRL. Restez avec nous. On a Étienne Blondeau. Merci d'être retour, Étienne.
Bonjour.
Bonjour. Et si je dis de rester avec nous, c'est qu'après être passé au travers ce qu'on pourrait appeler le cas de la Libye, la situation de la Libye en première demi-heure, eh bien, on aura Frédéric Vial en deuxième demi-heure. Puis là, on va parler avec un expert, un conférencier invité dans plusieurs endroits en France, en Europe, concernant l'entente de libre-échange Canada-Europe, communément appelée l'AECG, l'accord économique commerce global, autrement dit le libre-échange Canada-Europe, qui a été adopté au Parlement européen à Strasbourg cette semaine. Un jour sombre pour les gens dont on parlera tout à l'heure. Le 14 février dernier, ce vote a été donné. Et ici, ben, au Canada, il n'y a pas tellement de votes. En tout cas, c'est déjà rendu en troisième lecture. Il n'y a pas vraiment de débat, il n'y a pas vraiment d'opposition officielle, même si trois partis au Parlement canadien à Ottawa sont contre. Ben, il semble-t-il que notre système uninominal majoritaire à un tour, qui a comme majorité le gouvernement libéral de Justin Trudeau, qui est allé d'ailleurs en Europe, à Strasbourg, et qui est allé faire un petit tour en Allemagne, pourtant un pays qui est très opposé. Plus de 350 000 opposants se sont réunis dans la capitale, là-bas, pour s'opposer. Je sais que quelques milliers de manifestants ont accueilli M. Trudeau, notre premier ministre, pour leur dire que le peuple, les peuples d'Europe sont contre, mais on verra bien. Les 28 pays membres d'Europe et leurs députés dûment élus, souvent dans les proportionnels d'ailleurs, on dit oui à cet accord de libre-échange transatlantique entre l'Europe et le Canada. Mais il reste quand même 38 parlements nationaux à voter, alors que nous, on a ce qu'on pourrait dire une dizaine de parlements nationaux ici au Canada. Mais notre constitution et législature ne permet pas vraiment de donner du pouvoir à ces assemblées législatives, plutôt. On le voit très bien. Ce ne sont pas, si ce n'est que l'Assemblée nationale a changé son nom d'Assemblée législative à Assemblée nationale lorsqu'ils ont aboli le Sénat il y a quelques décennies. Eh bien, c'est quand même une simple petite Assemblée législative qui, même malgré les efforts de Louise Baudouin à l'époque et de l'ancien député bloquiste devenu député péquiste, Daniel Turp, constitutionnaliste, très, très, très bon prof de droit, très connaissant de ces outils qu'on a quand on est député, avait tenté un projet de loi 52 à l'époque qui a été adopté sous le PQ, mais qui n'a jamais vraiment été mis en vigueur, où on demandait, dans le cas des traités internationaux importants, ça reste à définir ce qu'est un traité international important, sont que ceux en rapport avec l'environnement ou avec le commerce international. Toujours est-il que un outil législatif qui permettrait à l'Assemblée nationale de voter pour ou contre ce genre de traité, mais semble-t-il, c'est pas le Parti libéral actuel avec M. Philippe Couillard qui, semble-t-il, utilisera certains moyens législatifs pour empêcher cet accord d'être mis en vigueur ici, même si selon la Constitution, dans les domaines de compétences provinciales, autrement dit les domaines de compétences, si ça a un impact sur la santé ou l'éducation, ou en partie l'environnement, le Québec pourrait bloquer cet accord. Mais ça, je pense pas que ça se voit sous le gouvernement actuel à Québec. Mais bien sûr que Québec solidaire, le Parti vert et en partie le Parti québécois se sont montrés un peu, sinon contre ou sceptiques face à cet accord de libre-échange. On en parlera donc en deuxième demi-heure avec Frédéric Vial, auteur de volumes sur le sujet et porte-parole d'Attaque France. Alors, de retour à notre première partie de l'émission Grain de sable, Étienne Blondeau, on ne peut parler, oui, c'est une façon de parler, de la Libye récemment. Je sais qu'il y a quelques semaines, on a parlé ensemble de la Syrie, et je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais par la suite, dans l'actualité, on a beaucoup parlé de la Syrie.
Oui.
Même Trump en a parlé, d'autres, et je ne sais pas si tu es un précurseur, mais pourquoi parler de la situation libyenne aujourd'hui à Grain de sable?
Ben, c'est une occasion de parler aussi d'un modèle de société qui était authentiquement original. Et moi, je vois le lien déjà avec l'accord de libre-échange que tu mentionnais tantôt. Parce que cet accord de libre-échange-là, par exemple, entre le Canada et l'Europe, j'ai l'impression que c'est le niveau fédéral qui essaie de l'imposer aux nations, aux peuples, aux régions d'Europe ou du Canada. Alors, on voit difficilement la teneur là, démocratique de ça. Hein? Quand c'est imposé d'en haut, on se demande quand est-ce que le peuple peut s'exprimer. Et c'est pour ça que c'est étrange de voir l'Union européenne, par exemple, se transformer en donneur de leçons, hein? Donneur de leçons de démocratie dans certains coins du monde qui essaient de vivre aussi bien qu'ils peuvent malgré les difficultés, comme en Afrique. Dans le cas de la Libye, un pays qui a beaucoup de grandes villes sur ses côtes où mouille la Méditerranée, mais qui a aussi une grande partie qui se trouve dans le Sahara, une région très aride. Alors, je voulais parler de... parce que chaque émission qu'on a faite sur le Moyen-Orient parlait pas mal du sujet des printemps arabes. Hein? Ça, c'est de ça qu'on parlait en 2011, et beaucoup de ces pays-là vivent encore les conséquences.
L'Égypte, ça a été dur pour leur tourisme.
Oui, le tourisme n'est toujours pas relevé. Ils en sont encore à essayer de prouver que c'est un pays sûr, mais les touristes chinois, de ce que j'ai lu, sont nombreux, mais les autres nations se décident pas à revenir encore à ce point-ci. En Libye, par exemple, je déconseillerais fortement le tourisme là-bas parce que, contrairement aux autres printemps arabes, il y a eu une intervention de l'OTAN, hein? Une intervention de nos armées canadiennes, de nos alliés américains, nos alliés européens, pour envoyer les avions en Libye pour prendre parti. Hein? Il y avait la lutte entre celui qu'on appelait le colonel Muammar Kadhafi, hein? Le leader de la nation libyenne, et des rebelles, surtout dans des régions de tribus hostiles, hein? Historiquement opposées aux origines de Muammar Kadhafi dans la région de Misrata. Et en gros, nos armées ont pris parti. On dit que les rebelles devaient gagner cette lutte-là. Et ça s'est fait dans une grande précipitation. C'est vraiment, on n'a pas expliqué à nos peuples en quoi une intervention militaire en faveur de ces rebelles-là, en quoi ça allait améliorer la situation du pays. Ça a été fait le plus rapidement possible, sans vraiment expliquer les enjeux. Et surtout, ça a été fait en ignorant le désastre irakien, hein, et le désastre afghan, où on se demande s'il peut avoir un seul aspect positif à une intervention. Supposément, on abat des dictateurs, mais ça laisse des champs de ruines, des infrastructures qui sont jamais rebâties, et des millions de morts, essentiellement. Alors, pourquoi on pouvait penser que ce serait différent en Libye? Pourquoi on serait plus intelligent en 2011 qu'en 2003? Surtout que là où le Canada était resté chez lui, dans le cas de l'Irak, mais dans le cas de Libyen, on y allait à fond le train. Hein? Moi, je me souviens, en 2011, on parlait
de nos avions qui bombardaient. Là.
Exactement, et du commandant en chef de l'opération en Libye, un Québécois. Moi, je me souviens très bien à la télévision et même dans mes cours sur les relations internationales, on en parlait quasiment comme une raison d'être fier. Là. Un Québécois mène cette attaque-là contre la Libye.
On veut des noms. Coulons, je joue au hockey avec un pilote de l'armée. Moi, que c'est ça. Lui, je me souviens plus de son nom.
Un certain Charles Bouchard, là, c'était lui qui commandait les opérations. Alors, moi, je trouvais ça assez triste pour la nation québécoise que le commandant d'une agression, ben, ce soit un.
Mais c'est au nom de l'OTAN, donc c'était bien sûr un membre de l'armée canadienne, mais au nom de l'OTAN.
Exact. C'était quelqu'un qui a beaucoup, qui a eu une longue carrière dans l'OTAN. Alors, cette attaque-là, supposément, c'était parce qu'il y a eu 6000 morts imaginaires, jamais prouvées, mis sur le dos du colonel Kadhafi par un certain Ali Zaiden qui représentait la Ligue libyenne des droits de l'homme. C'est une association qui a été bâtie hors de la Libye avec de l'argent anglais et de l'argent des monarchies du Golfe. Alors finalement, ces opposants-là avaient tendance à être financés par des pays qui appréciaient pas l'indépendance d'esprit, je vais dire ça comme ça, du colonel Kadhafi, à qui on peut reprocher beaucoup de choses, mais au moins il essayait de prendre des solutions, je dirais, originales pour sortir son pays de la misère dans une région du monde où la vie économique, la vie.
Le Canada a eu sa présence auprès de la famille Kadhafi. On sait qu'il y a un fils qui a été accusé dans des scandales là, de corruption avec SNC-Lavalin parce qu'il y avait des infrastructures là, qui étaient vraiment planifiées, construites par des firmes d'ingénieurs canadiennes. Il y a un autre fils aussi de Kadhafi que tu me rappelais en préparant l'émission, Saif al-Islam, qui lui était classé parmi les rebelles finalement.
Lui, il a été capturé par les rebelles et il était soumis à un procès, là,
par les gens en place actuellement.
Oui, mais même là, la situation est très complexe parce que le pays libyen il était uni sous Kadhafi, mais au moment, c'est le chaos essentiellement. C'est divisé en des tribus qui dirigent des petites régions. Hein,
on se souvient tous de son assassinat en direct, quasiment, où il a été pris caché dans un tunnel, peu importe.
Ben, c'est ça, c'est d'ailleurs...
C'est fini, son affaire.
Je sais pas si je dois décrire sa mort, parce que ça a été particulièrement violent et filmé, peut-être que je vais épargner les détails aux gens aujourd'hui, là, mais de la manière dont il a été mis à mort et surtout le fait que c'était filmé, ben des pays comme par exemple la Russie et la Chine, ils ont vu ces clichés-là, ces vidéos-là, et ils ont vu qu'est-ce qui arrive aux gens qui laissent l'OTAN, qui laissent les pays de l'Occident intervenir chez eux. Ils voient où est-ce que ça mène, et je pense que c'est vraiment l'événement libyen, là, dans cette position-là défensive sur ses gardes à Moscou ou à Pékin. C'est beaucoup dû à la situation libyenne. Ils ont laissé les avions aller en Libye parce qu'il y a une résolution de l'ONU où est-ce que l'OTAN voulait demander la permission de protéger les populations libyennes. Alors là, la Russie et la Chine ont dit « Bon, d'accord, on va pas voter pour, on va pas voter contre, on va s'abstenir. Défendre les populations libyennes. » Et ce qu'on a fait, c'était de mettre à mort le leader du pays. Alors que les Chinois et les Russes, c'est quoi la leçon qu'ils prennent de tout ça? Jamais, jamais faire confiance aux États-Unis ou à leurs alliés comme le Canada.
Est-ce que Donald Trump nous donne encore plus confiance?
Difficilement. Supposément qu'il veut...
réformer.
Réparer les relations avec la Russie, mais je pense que la Russie a pris un peu trop de claques.
Il veut surtout réformer la manière de financer l'OTAN, autrement dit, de donner moins d'argent.
Ouais.
C'est pas tellement de bon augure. Mais de quoi parlait-on avant en Libye? Il y avait quand même une belle présence démocratique, de démocratie directe en Libye.
C'est ça. C'était surtout un exemple de succès, je dirais, économique, parce que c'était un peu comme le Venezuela, là, même si c'est pas identique. Oh. On reprenait les revenus du pétrole et c'était investi dans la population. C'était pas seulement pris par le chef d'État ou ses palais ou je sais pas quoi encore, là. Parce que dans le cas de la Libye, la vie était, j'ai envie de dire, assez confortable, surtout quand on compare aux pays voisins. Avant la destruction du régime, l'électricité et l'eau à usage domestique, c'était gratuit pour tout le monde. Le coût de la vie en Libye était assez faible, plus faible que dans nos pays à nous en général. Les banques libyennes vous donnaient des prêts sans intérêt. Les citoyens avaient aucun impôt à payer, pas de taxes sur les produits. Le taux d'alphabétisation était de 82%. Je pense que sur ce continent-là, ça peut être difficile à trouver un taux de genre. Le pays était sans dette. Oui, le pays était sans dette. L'achat d'une voiture au prix de l'usine. Un couple qui se marie, l'État lui offre une maison. Alors vraiment, les études étaient gratuites. Et là, je parle jusqu'au doctorat. Là.
Ah oui, bon.
Et si les étudiants ont leur diplôme en poche et trouvent pas d'emploi, ben pendant un temps, ils sont aidés. Ils reçoivent un salaire du gouvernement.
Un revenu minimum garanti, tiens.
Oui, en quelque sorte pour les étudiants. Alors vraiment, on se demande pourquoi on est... pourquoi partir de là pour arriver à un champ de ruines? Ben, la réponse est assez simple. Je parlais de l'individu de la Ali Zaiden de la Ligue libyenne des droits de l'homme. Et ben, finalement, c'était une promesse à nos chers pays démocrates de prendre une part dans ce pactole-là. Hein. On voyait, j'imagine que nos compagnies voyaient cet argent-là gaspillé dans le peuple et espéraient en avoir une petite bouchée.
Oui, il y a sûrement du pétrole derrière ça.
C'est ça, parce que comme disait Zaiden, les contrats signés seront respectés, mais un futur pouvoir, peut-être qu'il pensait à lui-même, prendra en considération les nations qui nous ont aidés. Alors pourquoi tous les pays d'Europe et ou le Canada même se sont précipités en Libye? Ben ceux qui étaient très présents, qui faisaient acte de présence, ben peut-être qu'ils seraient récompensés plus tard avec du pétrole.
Kadhafi rayonnait à travers l'Afrique. J'ai eu la chance d'en rencontrer des gens au Sénégal qui vantaient encore, on parle de quelques années après sa chute, son décès, son assassinat, parlaient encore en bien de Kadhafi quand il se promenait avec sa grande tante et ses chameaux, je dirais, et ses nombreuses femmes. Quand il plantait sa tente à quelque part, c'était pour donner des cadeaux, donner des exemples de démocratie directe. Et d'ailleurs, selon tes recherches, il y a eu un livre vert qu'on peut comparer avec le fameux livre rouge de Mao Tse-tung,
c'est ça.
Dans lequel on définissait toutes ces actions que tu mentionnais tout à l'heure.
C'est ça, parce qu'il ne voulait pas être en reste. Lui aussi voulait un livre coloré, j'imagine, pour faire sa marque sur l'histoire. Alors, son livre vert...
aux couleurs de l'islam et de son drapeau.
Oui, exactement. Essayait de définir une vision de la société. On va faire une société qui n'est ni capitaliste, ni communiste. Et en gros, c'était s'éviter l'abolition de la propriété. On ne va pas abolir la propriété comme dans les communistes, mais l'usine appartient à ceux qui y travaillent et la maison appartient à celui qui y habite. Alors vraiment, si vous utilisez quelque chose, vous méritez d'en profiter, là, de le posséder.
L'usus fructus.
Exactement. Et vraiment, il était assez ambitieux. Il disait qu'il allait fournir l'ultime solution au problème de la société. Je ne sais pas à quel point il a appliqué à 100% son programme, mais le programme en lui-même est très intéressant pour tous ceux qui défendent l'idée de démocratie directe. Parce que lui,
le conseil de quartier ici à Québec, qu'on veut abolir les référendums, avec le nouveau projet de loi qui est en discussion à l'Assemblée nationale, ben là-bas c'était tout le contraire. Là. On encourageait la démocratie directe, des conseils qu'on pourrait dire de quartier, mais avec un pouvoir législatif et réglementaire sur place dans chacune des petites tribus, quoi.
C'est ça, parce que vraiment toutes les critiques de la démocratie habituelle, on les retrouve dans le livre vert. Hein? La majorité de 51 domine le reste. Alors en quoi c'est une démocratie si le pauvre 49% qui reste n'a pas sa voix? En gros, dès qu'une élection est gagnée, on doit plus rien à personne en attendant la prochaine. Ça permet de trahir les promesses. Un parti, c'est juste... une très faible minorité de jeunes généralement riches, pourquoi il y aurait le droit de dominer la société au grand complet pendant des années de suite? Alors l'idée, c'est vraiment d'assembler des parlements qui seraient populaires, des assemblées populaires. Alors en gros, on divise le peuple en tranches, on fait pour chaque, je ne sais pas si c'est une échelle de quartier ou de village, mais chacun a son congrès. Et le Congrès, il se décide un secrétariat qui va déléguer à un Congrès plus élevé. Alors, c'est un peu comme des... c'est un peu comme une espèce de pyramide, hein, où chaque Congrès envoie des gens au Congrès plus en haut, qui envoie des gens au Congrès plus en haut, jusqu'à ce que finalement on arrive au gouvernement, qui est un Congrès un peu plus limité. Fait que c'est comme si des gens étaient versés du bas vers le haut, étaient élus par leur père, par des gens qui les connaissaient, pour diriger la société, de bas en haut. Faut regarder les schémas dans le livre vert pour mieux comprendre, là, mais c'est assez intéressant dans le sens que chaque loi est soumise par la population et délibérée entre des gens de la population et doit être acceptée par chaque niveau, hein. Si tout en haut on décide une loi, ben ça descend dans les congrès plus en bas, ils doivent l'accepter. Ensuite, ça descend encore et ça descend jusqu'au congrès de quartier qui doivent accepter et mettre en application eux-mêmes la décision qui a été prise en haut parce qu'ils l'ont acceptée. Alors, moi, je crois que c'est un bel exemple de démocratie qui porte mieux son nom que celle où est-ce qu'on délègue toutes nos décisions, tous nos pouvoirs à quelqu'un. Puis,
ensuite, aux 4 ans.
De toute façon, on se pose plus de questions pendant 4 ans. C'est une vision assez limitée, à mon sens. Et pour ce qui est de l'économie, ben lui, il veut vraiment éviter le système capitaliste. Il parle d'abolir le salariat pour que les travailleurs d'une usine, eh ben, possèdent cette usine-là et se séparent le fruit de leur travail. Et c'est pareil pour la maison. Il voulait interdire à ce que quelqu'un possède une maison et la loue à quelqu'un d'autre. Non, c'est les habitants, les résidents qui devaient posséder les maisons et les appartements. Alors, vraiment, et il faisait tout ça aussi en essayant de promouvoir la cohésion nationale. Hein. J'ai l'impression qu'il y avait vraiment une volonté d'unir les gens dans le même projet, pas s'éviter des divisions en tribus, en races aussi. Essayer de les tenir intéressés autour de la même cause, la cause libyenne, la cause nationale et rassembleuse. Parce que tu mentionnais sa présence à travers l'Afrique, c'est pas mentionné directement dans le texte, mais Muammar Kadhafi est une figure du panafricanisme, hein? Essayer de réunir le continent au grand complet autour d'idées où est-ce qu'on met l'Afrique en premier, hein? Les intérêts africains en premier. On évite l'exploitation par les anciens et présents colonisateurs. Alors, c'est un homme qui était passé d'abord par le pan-arabisme. Il pensait que les Arabes devaient s'unir après, mais après, il a abandonné cette vision-là plus ethnique pour une vision pan-nationale, continentale, où son continent est extrêmement riche, les gens sont soumis à des compagnies étrangères. Comment on en sort? Et c'est pour ça que je pense que je vais quitter son petit livre vert pour aller dans le concret, là. Moi, en gros, si j'ai fait cette recherche-là sur lui, c'est parce que j'étais tombé sur un texte d'un Africain qui s'appelle Patrick Mbeko, là, qui vit présentement au Canada, qui se demandait son article. C'est sur un site qui s'appelle Œil d'Afrique, là. Son article est intitulé « Ce que la majorité des Africains ignorent de Muammar Kadhafi ». Il essaie de brosser un portrait plus réaliste du personnage. Et il mentionne plein de choses intéressantes, c'est ça. Kadhafi, lui, dès que les États-Unis offraient de l'argent à un leader africain pour que le leader accepte qu'une base américaine soit bâtie sur son pays africain, eh bien, dès qu'un leader africain recevait cette offre-là des États-Unis, ben Kadhafi arrivait et doublait l'offre. Ça empêchait qu'il y ait des bases militaires directement sur les côtes africaines. Dans le cas de la Libyan Arab African Investment Company, c'est une compagnie fondée par la Libye qui a investi dans 25 pays d'Afrique. Alors, cet argent-là du pétrole bénéficiait pas seulement aux Libyens, mais était distribué aux pays à travers le continent. Il a essayé de réaliser le premier satellite africain. Ça aurait permis aux Africains de ne pas être obligés de louer les services des satellites européens et états-uniens. Ils peuvent avoir chaque année de l'argent qui quitte l'Afrique et qui n'y revient plus jamais en télécommunication. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est ce que je disais, le Great Man-Made River Project. C'était 4000 km de pipeline pour procurer de l'eau à toutes les villes des côtes libyennes. C'était réalisé encore une fois avec l'argent du pétrole. Et le but, c'était de prolonger le système vers le Sahara pour peut-être le mettre en culture, le verdir et réussir à en faire un centre.
Tout ça était dans son livre vert. Verdir le Sahara, c'est quand même peu dire.
Non, pas dans le livre vert lui-même, parce que je vais avouer que le livre vert, c'est un peu de la théorie presque manuelle d'école. Mais ses projets concrets étaient vraiment dans l'esprit où on regarde notre population et on se demande comment en faire bénéficier des fruits notre industrie. Comment redistribuer l'argent? Et il l'a montré en investissant l'argent du pétrole pour distribuer de l'eau aux gens dans une région aride.
Mais tout ça, excuse-moi Étienne Blondeau de vous interrompre, mais tout ça, est-ce que c'est tombé finalement quand Kadhafi a été assassiné?
Exactement, il ne reste plus rien de tout ça. Le pays est brisé en plusieurs morceaux. Il a même eu jusqu'à tout récemment, j'ai envie de dire, une succursale de l'État islamique. Hein. On parle souvent en Syrie, en Irak, qui avait un pied aussi en Libye. Là. C'était signe du chaos là, parce que l'État islamique a tendance à se faufiler là où il y a ni foi ni loi, hein, pour reprendre l'expression. Alors, s'il s'est retrouvé en Libye où il n'y avait rien à faire, vu qu'aucun de ses membres est libyen, ça montrait le chaos, à quel point il n'y a personne pour garder les frontières ou garder l'ordre et la sécurité dans le pays qui était anciennement dirigé par Kadhafi. La situation est assez triste à voir et vu que le pays libyen est divisé en factions tribales, qui souvent ont des hostilités, des rivalités qui remontent à très loin dans l'histoire. On comprend mal qui pourrait les unir aujourd'hui. Moi, je vois pas, malheureusement, de voie de sortie ben positive pour la Libye.
Le sport? Je sais pas comment performe l'équipe libyenne au football européen, mais ici à Québec, c'est le tournoi international de hockey Pee-wee, où plusieurs nations sont représentées. Il y a des finales aujourd'hui et demain. On vous souhaite peut-être d'y participer. Je sais qu'il y avait plusieurs jeunes Américains, États-Unis qui étaient de passage. J'ai vu des Japonais, j'ai vu des gens de tout acabit circuler aux alentours des patinoires extérieures. Alors, peut-être que le sport, on espère chez ces jeunes qui sont ici à Québec, vont repartir avec un message de paix et de dire que, dans le fond, Québec n'est pas que cette ville qui a été touchée par un drame, une horreur, il y a quelques jours déjà. En terminant, Étienne Blondeau, sur la Libye, quel mot, quoi retenir de l'après-Kadhafi?
Faut laisser aux Africains leurs ressources essentiellement. Faut vraiment se méfier de nos compagnies qui essayent de se mêler de politique.
Eh bien, allez, pour tous nos jeunes du hockey, puis oui.
Est venu nous voir pour constater l'état du désespoir. Une couple de sans-abri à la veille de Noël, ça c'est un bon sujet pour le show des nouvelles. La caméra d'en face, j'y faisais des grimaces. Mais qu'est-ce qu'ils font là à filmer ma carcasse? C'est pour un reportage pour les plus démunis. Je voudrais savoir ton nom, je voudrais voir ton outil. J'ai plus pas d'outils, je m'appelle pas, je viens tout seul. Mode tes points, si you, ben mon point sag. Golden Johnny travaille pour les yuppies. Si j'avais le droit de voter, ben je voterais pas pour lui. Y'a l'armée du salut, pourquoi tu vis dans la rue? J'ai dit, ben pense-moi pas qu'on va compter tes boutiens. Mas tu... situation, c'est d'intérêt public de savoir si je me pique. Tu fous-tu de l'air en pile ou tu fous-tu des poubelles? Épargne-moi les détails de ta vie sexuelle. Probable, pralette, canette, ginette, qui a été mangée, je m'en vais me saouler. Tu vas en savoir plus long si tu me donnes un peu de fric. C'est comme le téléthon des alcooliques. Y'a l'armée du salut pour que tu vis dans la rue. J'ai dit, ben passe-moi, pas que nous va compter des putains. Au bureau du PS, mais on peut pas t'aider si t'as même pas d'adresse. Ça peut installer une check et un petit logement à deux pièces, mais on peut pas te louer, t'as même pas de PS. Je me sentais comme un rat dans un laboratoire. Et là, mais tu me gênes, faut que tu files la rue. J'ai dit, ben passe-moi un poc, passe-moi un poc, vous va compter tes buts.
Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Le Radiothon de CKRL aura lieu le 31 mars et le 1er et 2 avril prochains. Faites un don de 20$ et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25$ avant le 31 mars 17h. Et vous pourriez gagner le prix spécial prix Radiothon et le prix membre. Notre objectif? 42 000$.
Pour renouveler votre carte ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e Avenue entre 9h et 17h30 au 418 640 2575 poste 201 ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé PayPal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter ckrl.qc.ca.
J'ai un formulaire et un chèque à remplir. J'aimerais tellement lire le journal et comprendre les articles.
J'aimerais améliorer mon français pour reprendre mes études et trouver un travail.
Je voudrais écrire des messages à mes amis et à ma famille.
J'arrive pas à lire ce qui est écrit sur ma bouteille de médicaments.
Le Cœur à lire, organisme d'alphabétisation, répond à vos besoins en écriture et en lecture. Accueil chaleureux, atelier dynamique, pas de gêne, pas de stress. Appelez-nous au 88 841 1042.
Lecœuralire.com.
En partenariat avec la Caisse populaire des Jardins de Charlebourg.
Oui, bonjour, Frédéric Vial, vous êtes bien avec nous en direct de France? Oui, bonjour. Monsieur Vial.
Oui. Oui, oui.
Vous nous entendez bien?
Ah, très bien, merci.
Très bien, merci d'être avec nous. Vous savez, Frédéric Vial, on est vraiment fiers d'être... que vous soyez avec nous ici à l'émission Grain de sable. Vous êtes un ami, un allié de longue date. D'Attaque Québec depuis la bataille contre la GCS à l'OMC, en fait, en avril 2012. Monsieur Vial, membre du conseil scientifique d'Attaque France et auteur de L'horreur européenne aux éditions Tatamis en 2010, vous avez écrit aussi un petit livre qui s'intitule Manifeste contre les traités transatlantiques aux éditions Éric Bonnier, que j'ai vu qu'on est. C'est possible de se le procurer sur Amazon, j'ai vu ça tout à l'heure. Merci d'avoir écrit ces ouvrages qui sont des ouvrages de base. Vous êtes venu aussi virtuellement à l'une des premières activités publiques critiques de la ECG, de ce fameux accord économique Canada-Europe. Au tout début, vous étiez venu en fait à Montréal en 2010, mais d'une manière virtuelle par Skype, puisque à cause de ces fameux volcans islandais, vous n'aviez pu traverser l'Atlantique pour venir nous donner vos arguments et nous expliquer à votre manière vos enjeux. Vous êtes venu nous voir plus tard, en octobre 2011. Vous êtes même venu monter un cheval de Troie devant le Parlement canadien, si je ne m'abuse. Et d'ailleurs... Pardon?
Oui, oui, tout à fait. Oui,
tout à fait. Donc, vous nous connaissez, vous connaissez cet accord. On veut vraiment, avec vous, regarder si effectivement, en 2010, alors qu'on parlait déjà de ces enjeux, on se demandait quels enjeux pour le Québec face à quelle Europe. Cette conférence publique s'était déroulée à Montréal avec des représentants du mouvement social européen, dont Gérald Choplin, animateur de la coordination européenne via Campasina, qu'on a connu à la conférence des partis à Paris il y a quelques années, et Rolf Hansen du Bureau de l'International des services publics. Et est-ce que, en fait, les enjeux d'il y a 7 ans ont bien changé encore aujourd'hui?
Oui, oui, il y a eu quand même un changement assez réel, parce qu'entre le moment où je suis passé là-bas, au Canada, chez vous, et où j'ai été si bien accueilli d'ailleurs, et tout à fait impressionné par les mobilisations qui avaient lieu déjà à l'époque. Et aujourd'hui, il s'est quand même passé pas mal de choses, et parmi lesquelles déjà, on a eu un texte qui est sorti. À l'époque, en 2011, on avait juste quelques bribes, on avait juste quelques supputations, puisque comme d'habitude, les choses se sont négociées dans le plus grand secret. Là, maintenant, on a un texte, et surtout, on a un texte qui a été réécrit en partie, notamment sur le chapitre 8 relatif à la protection de l'investissement, qui a été réécrit entre septembre 2014 et mars 2015, c'est-à-dire le moment où il a été présenté officiellement par la Commission européenne aux institutions de l'Union européenne. Et donc là maintenant, on a un texte qui a évolué depuis le moment, l'époque que vous évoquez à l'instant, et qui a évolué dans un sens qui n'est pas un sens qu'on puisse trouver acceptable. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé avec le chapitre 8, avec la nouvelle rédaction du chapitre 8 de l'accord, c'est que le Canada, d'une part, et l'Union européenne, d'autre part, ont réécrit un accord sur l'arbitrage, en l'appelant différemment, mais sur le fond, l'arbitrage, la notion d'arbitrage demeure. Et puis, les enjeux aussi ont évolué parce qu'on s'est rendu compte, en voyant le nouveau texte, qu'il y avait aussi un autre chapitre qui était extrêmement dangereux. Il y en a plusieurs qui sont très dangereux, mais il y en a un qui est très dangereux, qui est le chapitre 21 sur la coopération réglementaire, et qui en fait est une bombe à retardement, puisque c'est un chapitre qui va donner les clés de la décision politique, aussi bien au Canada que dans l'Union européenne, aux multinationales et aux transnationales, même je dirais, de l'Union européenne ou du Canada. Et ça, c'est extrêmement grave. Et je crois qu'en 2010-2011, on ne s'apercevait pas encore, parce qu'on n'avait pas tout le texte, de la dangerosité de cet accord.
Déjà, on critiquait quand même ce fameux tribunal contrôlé par des avocats du privé.
Oui. Ça, effectivement, c'était critiqué. Et aujourd'hui, on assiste à... Il y a eu quelque chose qui a un petit peu modifié dans le chapitre 8, c'est que maintenant, ça s'appelle plus arbitrage, ça s'appelle ICS, ou système de course d'investissement. Ça, c'est ICS, c'est en anglais. Et le fait d'avoir changé de nom, le fait d'avoir dit que les membres de l'ICS seraient comme des magistrats, alors que c'est pas le cas, le fait aussi d'avoir assorti ça d'un article 830 sur l'éthique dans l'accord, permet aujourd'hui à la Commission, permet au gouvernement, permet au Canada de dire qu'il n'y a plus de problème d'arbitrage, mais les problèmes d'arbitrage demeurent. Et par ailleurs, j'insiste beaucoup sur l'autre aspect qui est celui de la coopération réglementaire, qui est aussi quelque chose d'extrêmement extrêmement dangereux, parce qu'il laisse les clés de la décision politique aux grandes entreprises.
Oui, mais d'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre-Marc Johnson, peut-être un nom que vous connaissez, puisque c'est l'avocat, ancien premier ministre québécois, l'avocat qui a été choisi comme négociateur en chef, et on n'arrête pas de le féliciter de cet accord. D'ailleurs, on cherche toujours le nombre exact de pages de cet accord. Je sais que vous l'avez toutes lues, mais dans le journal Le Devoir cette semaine, un journaliste nous parlait de 2400 pages, un autre nous parlait de 1500 pages. Vous qui l'avez lu au complet, il y a combien de pages cet accord, finalement?
Alors, moi, je l'ai lu ça va peut-être vous paraître étrange, mais je l'ai lu en anglais. Et en anglais, ben je l'ai lu en anglais tout simplement parce que c'est la première version qui est arrivée et elle fait, la version anglaise fait 1598 pages. Je les connais bien pour,
bah oui.
pour ça. La version française est plus longue, hein, forcément. Quand on écrit en français, c'est toujours un peu plus long. Donc 2400 me paraît pas un chiffre absurde. Mais d'ailleurs, le gouvernement canadien l'a publié, hein, la version, donc vous pouvez voir le nombre de pages.
Ouais,
sur le site
on,
canadien.
On va s'y attaquer, mais Monsieur Mark Johnson parlait de ce tribunal justement que vous appelez l'ICS, qui en fait ces magistrats qui vont être choisis vont gagner un salaire vraiment ridicule d'après lui, et supposément on attirerait des avocats qui ne sont pas de bons, qui n'ont pas autre chose à faire de plus intéressant. Souvent, les avocats qui travaillent dans le domaine des accords qui sont au service des entreprises privées gagnent vraiment de gros salaires dans des grandes firmes d'avocats, tout comme Jean Charest à l'heure actuelle, l'ancien premier ministre québécois, et Pierre-Marc Johnson, qui sont associés à des grands cabinets, ainsi que Jean Chrétien. Nos anciens premiers ministres se recyclent dans ces grands cabinets qui sont souvent engagés. Mais là, semble-t-il que ce nouveau tribunal, si on peut l'appeler quasi-tribunal, réunirait de petits avocats qui n'ont pas les grandes compétences ni l'expérience de ces grandes négociations. Ils ne connaissent pas autant que vous, par exemple, ces accords, et que, dans le fond, on donnait peu de crédibilité à ce futur quasi-tribunal pour pouvoir réconforter les Paul Magnette et ministres-présidents Wallon, par exemple, qui auront à voter cet accord pour qu'il soit vraiment entériné au bout de sa vie.
Oui, oui, ce que raconte Johnson, c'est vraiment la stratégie du dirigeable, c'est-à-dire qu'il raconte strictement n'importe quoi pour essayer de faire croire que c'est pas dangereux. Si effectivement ce monsieur a fait son travail de négociateur en chef, il lui a pas manqué de lire l'article 8.27.4 dans lequel on parle du salaire réel des gens qui vont être désignés dans l'ICS. Parce qu'en fait, il y a deux situations. Il y a le moment où ils ne travaillent pas, où ils seront payés effectivement pas grand-chose, c'est-à-dire pas grand-chose pour eux, hein, 2000 euros par mois, mais quand ils ne travaillent pas. Et quand ils sont désignés pour faire partie du panel, comme on dit en mauvais français, du panel qui est chargé de trancher un conflit entre une entreprise et un État, alors ils sont payés en fonction, et c'est 8.27.4 qui le dit, ils sont payés en fonction des règles du CIRDI, le Centre international des règlements des différends sur l'investissement, et là on est à 1000 euros par heure ou 3000 de la journée. Donc Johnson raconte strictement n'importe quoi pour essayer de faire croire qu'il n'y aura pas d'arbitre dans ce tribunal. Mais bien entendu, ce sont des arbitres, ce n'est rien d'autre. Ce sont des avocats internationaux, c'est-à-dire des gens qui pourront continuer de faire leur travail de courtage, qui pourront continuer de pratiquer le conflit d'intérêts, y compris à l'intérieur de ce pseudo-tribunal. C'est pas un tribunal, hein, c'est vraiment un organisme qui a été créé de toutes pièces, auquel on a donné un nom pour essayer de le rendre respectable, mais qui n'est pas autre chose que une liste d'arbitres dans lequel on va piocher au moment de chaque conflit. Donc véritablement, Johnson se moque un peu du monde en disant ce qu'il dit là.
Vous, par exemple, on me dit que vous êtes spécialiste surtout dans le domaine des services publics, là, des marchés publics. Qu'a-t-il dans cet accord qui peut mettre en danger la situation ici au Canada, au Québec et en Europe en rapport avec ces marchés publics?
Alors, je pense que les Canadiens, les Québécois surtout, ont vraiment raison de s'inquiéter sur la question spécifique des services publics, parce que de manière extrêmement explicite, de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est-à-dire du côté de l'Union européenne, ce qui est dit, c'est que les entreprises de services, les entreprises de gestion municipale de l'eau, de gestion des routes, de gestion des déchets, des ordures ménagères, construction des écoles, etc., etc., c'est ça qui est recherché à travers l'accord. Et les grandes entreprises transnationales françaises, par exemple, comme Veolia ou Vivendi ou quelques autres comme ça, vraiment recherchent cet accord et sont très contentes de cet accord parce qu'elles souhaitent arriver en masse sur les marchés publics et singulièrement les marchés publics locaux. du Canada. C'est là où il y a beaucoup d'argent à se faire, et à se faire en attendant la suite. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet accord Canada, Union européenne-Canada, c'est un marchepied pour la suite. La suite, c'est l'accord avec les États-Unis. Et voilà, nos amis canadiens du Québec ont vraiment raison de se mobiliser pour la défense de vos services publics, qui sont encore de véritables services publics. Alors que nous, en Europe, on a déjà pris l'habitude de les libéraliser. Malheureusement, ils sont beaucoup moins efficaces que les vôtres. Bon, et il y a cet aspect-là qui est très très net de la menace que peut faire peser cet accord sur le Canada. Mais il y a aussi dans cet accord un aspect propriété intellectuelle. Il se trouve que le Canada, vous avez une législation plutôt favorable pour la fabrication des médicaments, notamment génériques. Et ça, bien entendu, est remis en cause par cet accord CETA. AECG, pardon.
Donc, il faudra avoir un impact sur l'augmentation des prix des médicaments, si on a entendu parler de ça comme argument.
Direct. Et là, je crois que véritablement, vous avez pas mal de soucis à se faire, parce qu'il y a beaucoup, mais des deux côtés de l'Atlantique, de chimiquiers qui ont des entreprises chimiques, je veux dire, qui ont intérêt à renforcer les règles de la propriété intellectuelle, ce qui va nécessairement renchérir le prix du médicament. Et renchérir le prix du médicament, ça veut dire que la protection sociale sera plus onéreuse, sera donc moins bien assurée. C'est mathématique.
On peut, oui, surtout que la moitié du budget ici au Québec passe dans le domaine de la santé, et le fédéral n'a pas encore signé d'entente avec le provincial ici au Québec, alors qu'il affecte d'autres provinces. Mais pour revenir du côté européen, du côté de votre côté d'Atlantique, il y a un rapport du ministère de l'Environnement français commandé par Ségolène Royal, la ministre actuelle en poste chez vous, publié le 10 février dernier, c'est quand même pas trop loin ça, indique très clairement que la mise en œuvre du CETA, c'est comme ça vous l'appelez chez vous, là, c'est l'acronyme anglais de la ECG, n'est pas compatible avec l'accord de Paris sur le climat, lequel a été très, très, très galvaudé. D'ailleurs, on se demandait toujours si l'accord de Paris, les ententes, les conventions cadres des Nations Unies étaient plus importantes que les ententes de libre-échange. Mais nous, en tout cas, moi, c'est un de mes grands apprentissages quand je suis allé à Paris avec les gens d'Attaque Québec et mes amis de la Terre de France invités là-bas. J'ai réalisé très vite que ces accords n'étaient pas si importants que ça, l'accord de Paris, par rapport à tous ces accords de libre-échange qui, eux, contrôlent tout et donnent le pouvoir entre les mains du privé et des transnationales. Et donc, votre ministre qui a dignement animé tout cet accord de Paris avec son président Hollande, son ministère a établi un constat qui dit que le CETA va engendrer une hausse des émissions de gaz à effet de serre. Le CETA fait peser de lourdes menaces sur les réglementations environnementales actuelles, ainsi que sur la capacité des États à prendre de nouvelles mesures plus strictes à l'avenir. Sur le mécanisme de résolution des différends entre investisseurs et États, ne garantit pas la sanctuarisation des politiques climatiques des États. Alors, coudonc, votre ministre de l'Environnement qui supporte le CETA, son propre ministère dit que c'est pas bon pour son accord de Paris.
Exactement. Bon, il y a deux aspects à ça. Il y a le fait que, déjà, on est en campagne électorale en France. C'est une chose qu'il faut savoir qui surplombe tout le reste. C'est-à-dire que la position de Ségolène Royal est une position politicienne qui consiste pour elle à se placer dans le camp de ceux qui se rapprochent du centre droit, on va dire. Puisqu'en ce moment, on assiste à une espèce d'implosion politique du Parti socialiste auquel appartient Ségolène Royal, ce qui l'amène à prendre ce positionnement politique en faveur de l'accord. Mais sur le fond, son ministère, qui est composé de gens qui sont là pour défendre les questions environnementales, a conclu que cet accord n'est pas compatible avec les accords de Paris. Mais c'est normal, parce que le CETA, lui, prévoit des mécanismes qui sont effectivement des mécanismes, on va dire, autoritaires, ou en tous les cas qui permettent la défense de l'investissement d'une manière efficace. Et permettre la défense d'une manière efficace de l'investissement ne permet pas de défendre l'environnement. Ça va être l'un ou l'autre. Parce que soit l'investissement est protégé, soit l'environnement. Soit les réglementations sur l'environnement sont des réglementations fortes, et auquel cas il ne peut pas y avoir de coopération réglementaire, et auquel cas il n'y aurait pas d'arbitrage. Donc effectivement, le CETA, comme tous les accords de libre-échange, n'est pas compatible par sa nature même avec la protection, j'allais dire la protection de l'environnement, mais et encore moins avec le fait de faire ce qu'on appelle une transition énergétique. Simplement, quand on fait une transition énergétique, quand on se décide de faire ça, effectivement, ça veut dire qu'il faut prendre des décisions politiques, des décisions publiques qui découragent un certain nombre d'activités comme par exemple l'extraction minière, parce que ce sont des activités qui sont polluantes. Et bien ça, bien entendu, avec le CETA, il est impossible de prendre ce genre de décision politique.
Et on n'a pas encore parlé d'agriculture. Si vous voulez, Monsieur Frédéric Vial, j'aimerais qu'on aborde ce thème, puisqu'ici au Canada, c'est quand même un gros argument, surtout au Québec, où on est très fiers d'avoir copié tous les meilleurs fromages français. Et je salue Yannick Jadot, candidat au présidentiel, à qui j'en ai déjà parlé, mais il s'en foutait pas mal, que nous, on a réussi au cours des dernières décennies, au cours des 30 dernières années, à développer de très bons fromages, à copier les meilleurs camemberts, les meilleurs brie, les meilleurs fromages bleus. Nous, cette entente de libre-échange avec les Européens, c'est leur ouvrir des tonnes et des tonnes et des dizaines de milliers de tonnes de quotas d'importation de fromage français ou autre, où les Japonais du fromage, qu'on dit les Danois, vont pouvoir nous envoyer des tonnes de fromage de plus. Et nous, en échange, eh bien, on peut vous envoyer nos sables bitumineux, parce que ce qui n'était pas permis avant, cette entente-là va le permettre. Et en plus, on va pouvoir vous envoyer le bœuf de l'Ouest rempli d'hormones, ainsi que nos cochons qu'on envoyait au Japon avant. Mais parmi les 3 500 000 personnes qui ont signé une pétition en Europe contre cette entente de libre-échange du Canada, est-ce que c'est parce qu'ils veulent pas de notre porc, notre bœuf, puis ils s'en foutent de nous envoyer trop de fromage ici ou quoi? C'est pas, pourquoi il y a tant d'opposition en Europe contre le libre-échange?
Ben, essentiellement parce que il y a une préoccupation très forte sur les questions environnementales. Ça, c'est souvent le cas en Allemagne aussi, de plus en plus en France, parce que il y a aussi la conscience que il est pas possible non plus d'aligner des réglementations sur les réglementations de protection de l'environnement, notamment sur les questions minières, de les aligner à la baisse. Et aussi, et ça c'est souvent le cas en France, alors là, sur les questions d'OGM, sur les questions alimentaires, sur la question de la qualité sanitaire des aliments. Voyez-vous, l'opposition, elle vient de cette idée que chaque pays s'organise comme il veut, donc le Canada s'organise comme il veut, le Québec à l'intérieur du Canada, l'Union européenne s'organise, chacun a ses préférences politiques. Et ces préférences politiques, ça peut passer par un certain nombre de choix sur l'agriculture, puisqu'on en parlait. Des choix de production, un certain type de production. Et il se trouve que dans l'Union européenne, on pratique de la production industrielle sur le plan agricole. Hein. C'est pas qu'on n'en pratique pas, mais on pratique à chaque terme de la production un contrôle de la qualité de la production, et on répugne à la fin faire un traitement chimique, par exemple, des produits, notamment pour la viande. Et donc, bref, les choix que nous avons faits vont être directement remis en cause par les accords de libre-échange, et on considère tout ça comme profondément inutile, et non pas seulement inutile, mais dangereux par rapport à nos préférences, par rapport à la manière qu'on a de nous organiser. Voilà. Et après, on reconnaît chacun la possibilité de s'organiser comme il veut chez lui, et c'est bien normal, mais on ne souhaite pas que ce type d'accord, en fait, détruise un certain nombre des décisions, des choix politiques, y compris politiques, que l'on fait au nom de l'augmentation des dividendes de telle ou telle grosse entreprise industrielle qui n'a pas d'autre obsession que de remplir les poches de ses actionnaires.
Et parlons donc de politique, effectivement. Est-ce que cette à Carr. On a vu la division, là, les députés plutôt progressistes qu'on dit au Parlement européen à Strasbourg, comme les Verts, les gens plutôt de gauche ou d'extrême gauche et même d'extrême droite à la limite, ont voté contre cet accord. Mais est-ce que ça pourrait avoir un impact sur le résultat des prochaines élections dans les parlements nationaux, ce qui ferait en sorte que l'entente, l'accord pourrait mourir de sa belle mort par les parlements nationaux qui auront à voter? Il y en a 38 quand même.
Oui. C'est-à-dire que là, véritablement, sans vouloir nous flatter, je pense que le mouvement social, y compris grâce aux alliances qu'on a fait avec les mouvements sociaux du Canadien, je pense que le mouvement social en Europe a gagné la bataille de l'opinion, en fait, sur ces questions-là. C'est-à-dire que dans l'opinion, ce type d'accord n'est pas, ne va pas de soi, ne va plus de soi, ne passe plus. Et là, aujourd'hui, ce qui s'est passé avec le Parlement, enfin, ce qui s'est passé avec le Parlement le 15, aura des conséquences politiques. C'est-à-dire que, déjà, on sait que ça va coûter cher à un certain nombre de partis politiques d'avoir pris ce genre de position dans les élections nationales, et les ratifications nationales sont très très loin, mais véritablement très très loin, d'être acquises. Alors, il y a plusieurs pays auxquels je pense. La France, en tous les cas, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher la ratification nationale. Je ne dis pas qu'on va y arriver, hein, mais en tous les cas, on va faire tout ce qu'on peut pour ça. Mais les ratifications sont très très loin d'être acquises. Et vous avez parlé tout à l'heure de la résistance wallonne en évoquant Magnet, par exemple. Effectivement, la Belgique est un des pays, avec l'Autriche par exemple, où il y a vraiment de grandes chances que la ratification ne passe pas.
Bon.
Okay. Et donc, il se trouve que dans notre système, il suffit d'une ratification nationale pour rendre de fait l'accord au moins partiellement inapplicable. Et à partir de là, on serait dans une situation qui serait proprement impossible à démêler, d'un accord qui ne serait que partiellement applicable sur une partie seulement du territoire de l'Union européenne. Donc, vous voyez, le CETA n'a pas forcément de très beaux jours devant lui.
Bien, merci Frédéric Vial d'avoir pris autant de temps avec nous. Et en terminant, j'aimerais que vous nous dites un mot, pour histoire de nous convaincre d'acheter votre livre, le manifeste contre les accords transatlantiques, dans lequel vous annoncez le démantèlement, pierre après pierre, de toute protection sociale et environnementale.
En fait, dans ce petit bouquin, ce que j'ai voulu faire, c'est à travers des exemples concrets, et j'ai pris une famille de base composée de 4 personnes, vous voyez, bon, 2 adultes, 2 enfants, dans leur vie quotidienne, ce que ça veut dire que la libéralisation des services, ce que ça veut dire que la libéralisation de l'agriculture, ce que ça veut dire plus de chômage, ce que ça veut dire la concurrence à outrance. Et j'ai voulu prendre des exemples concrets, non pas seulement en parlant du CETA, mais en parlant aussi des autres accords, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont dans les tuyaux. Et ça, c'est un aspect qui est très important également pour le CETA, c'est que pour les gens qui promeuvent ce type d'accord, l'AECG, pardon, pas le CETA, mais l'AECG, pour les gens qui promeuvent ce type d'accord, il s'agit d'un accord modèle qui va servir pour tout le reste, pour tous les autres. Et ça, ce qui nous motive profondément à nous battre pour empêcher que cet accord vive sa vie. On veut véritablement l'enterrer avant qu'il devienne nocif.
Ben, merci beaucoup Frédéric Vial, docteur en droit, porte-parole d'Attaque France. Merci, au plaisir de vous revoir ou de vous réinviter ici au Québec pour nous parler.
Au revoir. Avec plaisir.
Merci.
Au revoir.
Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.
Cet hiver, vivez l'expérience du Mois Multi, le Festival international d'art multidisciplinaire et électronique de Québec. Tout le mois de février, découvrez des performances et des spectacles inédits. Embarquez dans un road trip cinématographique. Ressentez l'impact poétique de la violence. Laissez-vous guider par des voix automatisées. Le Mois Multi, c'est 25 jours de festivités et de rencontres avec des œuvres hors du commun. En primeur cette année, un passeport vous donne accès à l'ensemble des activités. Du 2 au 26 février à Méduse et chez plusieurs partenaires. Moismulti.org. Far Away de Carol Churchill sera porté à la scène par Edith Patnaud dès le 21 février. Le monde entier est en guerre, on ne sait plus qui est ennemi ou allié, ni comment différencier le juste de l'injuste.
avec Lise Castonguay, Ludjé Beaulieu et Noémie O'Farrell, au pavillon Pierre-Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec. Une production du Théâtre Blanc et du Théâtre L'Escaouette. Un univers fascinant, fantasmagorique et terriblement proche de nous. Une fable d'anticipation d'une grande intelligence, menée avec un sens aiguisé du suspense. Du 21 février au 4 mars.
Pour rehausser la beauté de votre maison sans tout rénover, faites peindre. Peinture résidentielle Jacques Dulac pour un travail professionnel et un service courtois. Pour l'intérieur et l'extérieur, votre terrasse, balcon, galerie en fer forgé, votre cabanon et bien plus. Profitez du service de déco-conseil et de l'estimation gratuite dans la région immédiate de Québec. Peinture résidentielle Jacques Dulac, entrepreneur général spécialisé en peinture du bâtiment, licencié RBQ et membre de la Sécu. 88-558-8658. JacquesDulac.ca. À chacun son style.
Le Cœur à lire vous invite à ses activités spéciales. Mercredi les 15 et 22 février de 13h30 à 15h30, le Café Le Cœur à lire vous invite à venir échanger en toute amitié sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Pas de gêne, pas de stress. Inscrivez-vous en tout temps à nos ateliers de français, c'est gratuit. Le Café Le Cœur à lire, organisme d'alphabétisation, 177 71e rue Est à Charlebourg, 418-841-1042.
Lecoeuralire.com.
En partenariat avec la Caisse populaire des Jardins de Charlebourg.
C'est quand on vit dans
la Ligue Rock 6 commence ce week-end et c'est au Cercle que ça se passe. Samedi 18 février, pour célébrer les 10 ans de Gisèle, Xavier Caffeine se paye la traite en jouant l'intégrale de cet album culte en compagnie de son frère Samuel.